would not. I feel good. I knew that I would not. So good, so good. I got you.
I feel good sur RCN. Christophe Chevardet.
Bonne année! On aurait pu commencer par un ou une diététicienne, un médecin qui vous donne des conseils pour évacuer les bons moments de la fin d'année. Eh bien non, on va parler de ce qui rend donne du sens dans la vie. C'est le boulot, c'est la joie de bosser, c'est la joie d'agir aussi, c'est l'épanouissement qu'on a à travers les rencontres. Madame, mesdemoiselles, messieurs, c'est un militant que je reçois, un militant du travail bien fait, de l'emploi, un militant de l'art aussi, des choses bien faites. Madame, mesdemoiselles, messieurs, c'est Alban Vibrac, mon invité.
So good, so good, I got you.
Salut Alban.
Bonsoir Christophe.
Bonjour Christophe. Et bonne année également.
Merci, merci tout plein. Oui, alors j'aurais dû dire que tu étais le directeur, le président directeur de Vibrac Menuiserie.
Tout à fait.
Ah, déjà. Alors c'est quoi Vibrac Menuiserie déjà?
C'est une entreprise qui a été créée en 1927 par mon grand-père, reprise en 1956 par mon père et que j'ai reprise officiellement le 1er janvier 1990. Donc c'est une entreprise de menuiserie qui était située pendant presque 40 ans à quelques centaines de mètres d'ici dans le quartier de Champ-le-Bœuf. Et pour des raisons de place, d'investissement et de nouvelles, de nouvelles machines à commande numérique, nous nous sommes installés dans la zone industrielle de Velay-en-Ré.
Donc Vibrac, j'allais dire à Nancy, tout le monde connaît un petit peu quand même au moins deux noms. Hein, si on a,
je pense que c'est une vieille famille de Nancy, c'est une entreprise... sur la place de Nancy depuis très longtemps.
Donc on va fêter le siècle.
Bientôt, bientôt, bientôt. C'est déjà dans nos papiers pour réfléchir à ce qu'on va faire.
Ah, j'imagine.
100 ans.
100 ans. 100 ans d'une affaire vraiment familiale.
Ah oui, oui, mon père, mon
grand-père.
Aujourd'hui,
toujours familial.
Toujours familial. Aujourd'hui, on regarde, j'ai quand même 62 ans, donc je regarde un petit peu l'avenir, c'est aussi penser à la suite. Et j'ai trois enfants, donc la première des choses qui était, c'était de demander à mes enfants ce qu'ils avaient comme envie. Les trois m'ont à peu près répondu, on n'a pas envie de vivre comme toi, papa. Bon, chacun son oui. Moi, je vis bien, je suis un mec heureux. Moi. Tu l'as dit tout à l'heure en préambule, moi, je trouve qu'on a de la chance de travailler. En tout cas, je trouve que travailler, c'est la joie. Pas tous les jours, mais en tout cas, sans travail, on ne vit pas la même chose, on ne vit pas les mêmes expériences. Donc, je me suis rapproché de mes salariés, mes fidèles salariés, parce que il faut bien imaginer que je ne pourrais pas vivre indéfiniment. Je voyais un article dans l'Est républicain, qui était bien fait ce week-end, qui disait, il y avait un restaurateur étoilé, me semble-t-il, qui disait, quand tu as plus de 60 ans, tu es fatigué musculairement, puis tu es fatigué intellectuellement, donc tu deviens moins bon. Et je crois que c'est vrai ce qu'il dit. Donc il faut arrêter de croire qu'on sait tout. Être le vieux con de passage, ça sert à rien. Donc je regarde aujourd'hui avec mes employés, il y a une petite partie de l'entreprise qui a été cédée, donc qu'ils ont racheté. Et donc il y a 6 personnes dans la menuiserie Vibrac, puisqu'on est aussi propriétaire, enfin on agit aussi à Ars-sur-Moselle sous le nom de Menulor, donc la menuiserie Menulor Ars-sur-Moselle, et depuis 2 ans à Neufchâteau sous le nom de la menuiserie mère. Donc tous ces gens-là sont des gens qui s'occupent de leur société. À Velaine, j'ai aussi des décideurs. Donc ils ont fait une petite holding. Ils sont 6 et donc je vais essayer de les accompagner. Je dis 70 ans maximum. Hein, si la maladie ne la décide pas avant.
donc, c'est aussi des nouvelles formes d'économie, ça. La reprise par les salariés,
c'est magique, ça.
C'est magique.
C'est magique. J'avais dit à 60 ans, j'avais dit simplement, comme ça, au détour d'une porte. Nous, nos bureaux sont tous ouverts. Hein. Il y a des portes en cas, si on veut avoir un entretien tranquille, mais en tout cas, tout est ouvert. J'avais dit, il faudrait imaginer l'avenir. Parce que la vieillesse, enfin, je veux dire, l'âge, tu peux pas lutter contre. Je ne connais pas qui ont réussi. Et un jour, ils viennent me voir, il y a un an, ils viennent me voir, ils étaient 4. Ils me disent, écoute, Alban, puisque tu nous as dit qu'il fallait imaginer l'avenir, on envisage de reprendre l'entreprise. Et je lui dis, arrêtez, vous allez me faire chialer, là. C'est quand même un moment fort, ça, parce que t'es dans ton bureau, t'as plein d'autres choses à gérer. Tu t'attends surtout pas à ça, quoi, parce que tu te dis, ils vont jamais faire ça. Et puis ici, ils y vont. Et je pense qu'ils y vont et qu'ils vont réussir parce que d'une, je n'accepterai pas l'échec. Eux non plus, j'ai des teigneux et on va gagner. Et on va y arriver. Quand je dis on va y arriver, ils vont y arriver. Et Vibrac perdurera, bien sûr, encore de nombreuses années.
Alors, Deux choses. Le goût entrepreneurial, quel piment dans la vie ça donne, d'où ça vient. Et puis, le fait de passer la main dans des formes contemporaines de gouvernance. En même temps, c'est laisser le nom partir, c'est plus des vibraques, c'est pas trop dur ça quand
on est... m'en parle pas, ça. J'ose même pas imaginer quand un jour partir. Je parle pas. Mais je pense, dans la vie, moi je pense qu'il y a plusieurs étapes dans la vie. Nos parents, mes parents, donc, m'ont permis d'aller à l'école, m'ont permis d'avoir des notions, d'apprendre à lire, à compter. Même si des fois je suis dur avec l'éducation nationale, en tout cas, sans l'éducation nationale, j'aurais pas eu ces notions de base-là. Après, j'ai travaillé. Quand on travaille, même encore aujourd'hui, j'espère apprendre, mais je pense que j'apprends un peu moins. Donc, et à un moment dans la vie, on se dit, il faut créer, quoi. Il faut créer. Ça, c'est quand même magique de pouvoir créer, c'est magique de pouvoir décider, c'est magique de voir les résultats de nos chantiers. Je trouve qu'on fait des choses simples. Juste en face, on est en train de livrer 130 logements pour l'OMH. Je trouve que c'est une belle réalisation. On crée. Tous les gens de mon entreprise, sur leur portable, je suis sûr qu'ils ont plus souvent les réalisations de leur chantier que les photos de leurs enfants. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a un moment dans la vie, il faut se dire, et je me vois pas mourir, hein, attention, hein, je suis pas morbide. Dans la vie, ce qu'il faut, c'est savoir redonner ce qu'on t'a donné. Et donc, d'être investi à la Fédération, d'être investi un petit peu à l'URSSAF, d'être investi...
On va revoir tous les
pour les autres, ça permet aussi de donner... ce qu'on t'a donné. Et sans ça, je pense que donner un bout de son cœur, c'est pas grand-chose. Par contre, ça permet d'avancer.
Alors, ce goût de l'entreprise, il est venu d'un exemple autour de toi. C'est ton père qui t'a un peu donné ça?
Je sais pas, j'ai l'impression que tu deviens menuisier parce que mon père était menuisier. C'est plus tout à fait vrai aujourd'hui, la preuve, parce que j'ai dit tout à l'heure. Je sais pas, t'arrives un jour, hein, puis t'as un bleu, et puis tu te retrouves à travailler, tu te retrouves sur un chantier, tu côtoies du monde, le bâtiment, c'est pas décrié, mais je trouve qu'on n'est pas souvent assez mis en valeur.
Il y a les deux dans le bâtiment, il faut vivre le pays, et si le bâtiment va mal, tout va mal, quoi, voilà, s'il va bien, tout va bien, c'est ce qu'on dit, ça, voilà. Et puis il y a le côté un petit peu entourloupe, on va dire. Quoi.
Ah bah oui, non, mais c'est sûr, si t'écoutes Julien Courbet tous les matins sur RTL,
le bâtiment... Alors, j'écoute pas RTL,
les marchands de voitures et puis les marchands
de pizza. Écouter les associatives.
Le bâtiment, bien sûr, mais c'est pas ça le bâtiment, c'est tout sauf ça, quoi. D'abord, on a quand même un vrai problème chez nous en France. On parle de ce qui va pas bien, on parle pas de ce qui va bien. Ouais. Parlons de tous ces gens du bâtiment, de ces 1,5 million salariés du bâtiment qui sont là, qui sont actifs tous les jours et qui construisent.
Je ne vous l'ai pas encore dit, chers auditeurs, c'est le président de la Fédé du BTP. Vous trouvez pas que ça lui va bien? Ça lui va comme un grand. Écoutez ce militant. Pourquoi?
Parce que c'est un beau métier, parce que il faut mettre en avant ces collaborateurs. On l'a fait dernièrement, Christophe, quand vous êtes venu aux coulisses du bâtiment, là, juste en face. Il faut mettre en avant, il faut montrer ce qu'on fait, il faut montrer que nos gens sont des gens qui vivent bien, qui vivent décemment. Ouais. Parce que quand on travaille, mais il faut travailler dans le bâtiment, on travaille comme dans tous les métiers d'ailleurs. C'est peut-être un peu physique, mais quand on a des salariés qui deviennent un peu plus âgés, on en prend soin différemment. C'est pas un métier de sauvage, c'est un beau métier. Mais je suis content d'avoir fait ma carrière. Ça ne se termine pas encore, mais je suis très heureux, très fier en tout cas de défendre le bâtiment. J'allais dire, dans les missions que j'ai eues, hormis celle de gérer mon entreprise, bien sûr, c'est la plus belle mission que j'ai, c'est celle d'être président de la Fédération du bâtiment et des travaux publics de Meurthe-et-Moselle. Parce que c'est une mission de cœur, ça. C'est une mission de lobby. Le lobby, c'est accessoire, le lobby. On nous dit toujours que ça va mal, mais putain, demande aux entreprises du bâtiment 2024, elles ont toutes pratiquement fait des beaux résultats. C'est compliqué, oui. Mais on est là, c'est compliqué partout, à la mairie de Villers, Christophe. C'est compliqué. Un petit clin d'œil.
Ouais. J'ai le souvenir, j'ai interviewé justement dans le cadre de cette formation professionnelle avec quelqu'un qui nous avait incité à le faire, qui s'appelle Monsieur Le Goff, et on va en profiter pour le saluer. J'avais interviewé une jeune qui nous racontait un peu son errance au sein de l'éducation nationale, où elle n'avait pas trouvé sa voie, pas trouvé sa filière. Elle a voulu faire une formation professionnelle, un brevet professionnel, je crois, au départ, dans un domaine. Et puis, en fait, je ne sais plus lequel. Et puis, ce n'était pas sa voie, toujours un échec. Voilà. Et puis, son grand-père, pour qui elle avait de l'estime, était peintre. Et elle a refait une formation professionnelle vers la peinture. Ce n'était pas tout à fait le truc qui devait lui aller, une fille un peu dure physiquement. Un peu. Et elle nous a raconté, je vous invite à retrouver l'émission sur RCN, mais c'était un moment d'émotion. Parce que la jeune fille avait trouvé et sa voix et le lien avec son histoire. Et c'était quelque chose d'extraordinaire, quoi. Extraordinaire. Pardon pour cette parenthèse, mais c'est pour dire que quand on fait de ses mains, quand on fait de sa volonté, on peut quand même rencontrer une vraie joie, un vrai épanouissement.
Et puis tu sais, dans le bâtiment, tu côtoies beaucoup de gens de nationalité étrangère. Mais ça veut rien dire, ça. Ça veut simplement dire que tous ces gosses, tous ces gamins qui sont en collège, au lycée, c'est un peu différent. Tous ces gosses, il faut leur tendre la main. On me dit toujours, il n'y a pas de stage, j'arrive pas à de stage. Mais venez dans le bâtiment, venez chez nous, venez à la fédération. On vous trouvera un stage. Je m'y engage depuis que je suis président. Ça fait 5 ans, plus de 5 ans bientôt. On ne laisse pas un jeune à la rue. Surtout pas un jeune qui a envie de découvrir. Moi, je rencontre régulièrement les jeunes de l'école de la deuxième chance.
Ouais.
C'est pas facile. C'est pas facile. Mais si tu leur dis non, c'est encore plus compliqué. Et si tu leur dis à la fin, écoutez, ils sont une vingtaine à chaque fois à venir, venez demander. On a eu 2 demandes de stage. Eh bien, ça, c'est bien, ça. Donc, ne laissons pas les gosses à la rue. Et ici, dans le quartier QPV, ça, j'aime pas ce machin-là, j'aime pas ce mot-là. Le quartier du Haut-du-Lièvre, ou le plateau de Haie, puisque c'est comme ça qu'on l'appelle aujourd'hui, mais le Haut-du-Lièvre me va bien, moi. On travaille avec quelqu'un que tu connais bien, c'est Fouad El Abassi, qui est le président du club de foot, où on fait un échange devoir contre sport. Les gosses ont droit de faire du sport s'ils font leur devoir. On a accompagné une 20aine d'enfants cet été, il y a une belle réussite. On continue avec le buisson ardent. La mairie, bien sûr, la ville de Nancy nous accompagne. Les sociétés, comme il faut en parler, parce qu'ils mettent un petit peu d'argent et du temps. Harmonie Mutuelle nous accompagne aussi. Donc, ne laissons pas les gosses à la rue. Mais de dire, c'est bien, le faire, c'est tellement mieux. Donc ici, dans ce beau quartier du Haut-du-Lièvre, où il y a quand même une vraie rénovation là, qui est en cours, il y a vraiment matière à faire.
Bon, je te laisse parler. C'était aussi pour montrer que là, on reçoit un chef d'entreprise et tu ne nous parles que de lien social.
Oui, parce que dans l'entreprise, ça se fait naturellement. T'as pas de gens, je veux dire, le lien social dans l'entreprise. Si quand t'arrives, j'ai des problèmes, je suis divorcé, donc des problèmes, t'en as forcément. Si quand t'arrives à l'entreprise, t'as un problème, qu'on te dit, tiens, fais ci, fais ça, et qu'on t'écoute pas, parce que tu le dis pas quand t'as un problème, tu le vois. Si t'as plus de lien social, le chef d'entreprise, c'est aussi lui, mais moi, quand j'ai divorcé, je vais vous faire rire tous. Je me suis retrouvé tout seul du jour au lendemain. C'est moi qui avais choisi de partir, comme ça, tu sais tout. J'avais plus de vêtements. Quand ta secrétaire va t'acheter des vêtements, je peux te dire que ça fait tout drôle, quoi. Mais c'est ça le lien social, comme quoi ça marche dans les deux sens. Un patron, c'est là aussi pour aider ses salariés. Ils le savent, mes gars. Quand ils ont un problème, ils m'appellent, ils me disent « Alban, j'ai besoin ». Ils ont besoin d'argent, quand c'est comme ça. Le rôle d'un chef d'entreprise, ce n'est pas que d'avoir des comptes. Bien sûr que l'entreprise, je la gère et puis que je pense la gérer pas trop mal. Mais tous les chefs d'entreprise de la fédération que je côtoie ont tous le même cœur. C'est pour ça que j'aime cette fédération de bâtiments.
Ah, tu idéalises pas un petit peu? Il y a quand même de temps en temps des beaux succès d'audience pour RTL, quand même.
Non, mais il y a des fois où ça va pas bien.
Justement, est-ce qu'on peut en parler de ça? Qu'est-ce que vous mettez en place? Parce que vous mettez aussi en place des systèmes de régulation.
Je pense que c'est l'État qui devrait contrôler ça un peu mieux. Nous, on fait des alertes régulièrement au niveau national pour dire attention, toutes les isolations à 1 euro, c'était de l'arnaque assurée, c'était assuré. Comment faire pour lutter contre ça si ce n'est que de les alerter? J'ai l'impression que nos politiques, bon, on ne peut pas parler trop politique, hein, parce que c'est quand même un peu complexe, n'ont pas toujours la même vision que nous. Je crois que les politiques, s'ils avaient été chefs d'entreprise, des fois, ils auraient peut-être une vision différente du marché. Bien sûr que ces gens-là nous font du mal. Mais on lutte dans nos fédérations. Mais lutter contre quoi? Nous, on récupère les dossiers des gens. Voilà.
Du coup, ça veut dire que tu as aussi une responsabilité syndicale très très forte, donc la Fédération du bâtiment,
bien sûr,
tu l'évoquais. Tu as été président de la CPME, donc c'est le syndicat des petites et moyennes entreprises.
J'étais président il y a 5 ans, hein, j'ai fait 4 ans de mandat à la CPME, où là c'est une école de la vie politique. Parce que t'as tous les métiers, quoi. T'as les commerçants, t'as les industriels, t'as les gens du bâtiment en très petite quantité. Et donc, tu discutes avec tout le monde. Et le commerçant qui vend, j'allais dire, une baguette n'a pas le même souci que le menuisier qui vend ses portes ou que l'industriel qui fabrique des outils comme il y avait à pomper. Donc, il faut t'apprendre. Et c'est là que tu rencontres, en réalité, la CPME, c'est un organe politique. Comme le MEDEF, puisque aujourd'hui je suis au MEDEF par mon mandat fédération. Donc on rencontre des gens, donc on apprend. Il faut apprendre. On ne sait rien quand on arrive. Moi je dis toujours merci à une grande dame. On parlait de dame tout à l'heure, c'est Christine Bertrand. Parce que quand tu arrives, que tu es tout beau, tout neuf, là, que tu sors de l'emballage, puis qu'on te dit, tiens, tu as une réunion là. Ben oui, d'accord. Christine, je la connaissais avant dans les métiers du bâtiment, puisqu'elle elle avait une société d'intérim. Et quand cette dame te dit, bah, tiens, voilà, je te présente le monsieur là, c'est Alban Vibrac, c'est le président de la CPME, bah, tu vois, ça change tout quand même. Du coup, t'es plus le gars qui est là, qui sait pas qui est en face de lui, qui sait plus dire bonjour. Et quand t'as quelqu'un qui te guide, c'est pour ça que je te disais tout à l'heure, Christophe, il faut guider les gens. Il faut tendre la main.
Alban, Show Must Go On, c'est ton show musical. On va se donner l'explication juste après, mais on a déjà une petite idée. Show Must Go On, tout de suite sur RCN. Rassurez-vous, avec I Feel Good, c'est jamais en entier la musique.
Empty spaces, what are we living for? Abandoned places. I guess we know the score. On and on. Does anybody know what we are looking for? Another hero, another mindless crime behind the curtain in the pantomime. Hold the line. Does anybody want to take it anymore?
Mais oui, c'était lui, Freddy Mercury, sur RCN.
I Feel Good sur RCN, Christophe Chevardet.
Freddy Mercury sur RCN, Show Must Go On, c'est le choix d'Alban Vibrac. Pourquoi, Alban?
Bah, quand Freddy Mercury a chanté cette chanson, il savait qu'il allait mourir, quoi. Donc il dit simplement, la vie continue après la mort. Eh ben exactement, la vie continue après la mort, c'est exactement ce que je disais, moi je parle pas de mort. Il y a pas de mort, la mort économique ça n'existe pas, il faut toujours une vie. Heureusement. Il faut toujours aller de l'avant, c'est ça que je veux dire. Quoi. Il y a pas de, on s'arrête pas.
Alban Vibrac, si on lui demande trois dates importantes dans sa vie, il raconte qu'il a trois enfants.
Voilà,
c'est donc ça, c'est le truc des invités qui veulent pas donner leur date. Alors ça,
c'est pas emmerdé. Quoi.
Donc ça, j'ai dit ok, c'est le joker Alban. Donc on va remettre une date pour les trois enfants. Donc voilà, donc c'est Romain, Thomas et Adèle.
Exactement.
Voilà, mais sur l'écran ceux-là.
Attends, j'ai marqué
les années,
sur
les années, les années.
88 pour Romain, 91 pour Thomas et 95 pour Adèle.
Un vrai papa. Bon, ça c'est fait, bonne année les gamins. Un papa heureux, très différent.
Ah oui, bah bien sûr, ouais, ils sont tous différents. Puis j'en ai un qui travaille dans l'informatique, dans une entreprise de comptabilité, qui fait des programmes. Le deuxième qui est militaire à Saint-Cyr. Et la troisième qui est quand même restée près de son papa, qui est architecte à Nancy.
Oh, la bonne gamine.
Je pense, ouais. Elle est très proche de son père, c'est normal déjà, ouais. Géographiquement, et puis bon, c'est une fille, quoi, ouais, donc elle est plus proche de son père, mais avec les autres, tout va bien.
Bon, vraiment, t'as voulu dire tout de suite les enfants, c'est vraiment la date...
Ouais, parce que c'est important, surtout quand t'es divorcé, c'est encore plus important.
Ouais, et puis le chef d'entreprise qui prend peut-être pas trop de temps pour les enfants ?
Je pense que ça, c'est quelque chose de terrible. Alors, je suis pas grand-père. Je vois tous les gens de mon âge qui sont grands-pères sont devenus tous gâteux et gaga, ne pensent plus qu'aux petits-enfants. Et je pense que ça, c'est une belle réussite aussi. C'est bien ça. Je pense que de pouvoir donner
tu lances un appel, là, c'est ça. C'est...
Non, je lance pas d'appel. Non, surtout pas. Ça serait derrière des choses. Mais en tout cas, je trouve que c'est bien. C'est bien. Je lance pas d'appel parce que moi, je trouve que pour le moment, je n'ai pas le temps. Voilà.
Mais alors, on revient à ça. Comment on cumule l'intense vie de chef d'entreprise et le fait d'avoir de chouettes enfants? On a tous des chouettes enfants.
Bah écoute, j'ai fait le choix de l'entreprise, certainement beaucoup. Mon ex-femme s'en est beaucoup occupée des enfants, donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, ils ont certainement tous un peu réussi dans la vie. J'ai fait le choix de l'entreprise. C'est aussi le choix que j'ai fait que je me suis retrouvé seul. Je pense qu'il n'y a jamais... Il y a toujours un lien, quoi, de causalité. Donc, en tout cas, c'est comme ça. Ça ne me rend pas malheureux. Aujourd'hui, je vis avec une femme qui est architecte aussi. Je vis une vie confortable qui me va bien. Donc, si c'était à refaire, je referais la même chose.
Deuxième date importante dans ta vie, c'est pour une personne ancrée pour toi. On imagine que c'était important, ancrée, parce que le grand-père, le père, toi. Alors à l'époque, tu n'avais pas encore les clés de la boutique. C'était le père qui gérait. Mais tu pars en Arabie Saoudite.
C'est-à-dire que je sors avec un beau BTS de l'école du bois à Mouchard dans le Jura. En 82, je vais travailler.
Ça déjà, c'est une étape aussi importante de ta vie.
Oui, parce que tu es tout seul. Tu sais, à l'époque-là, le réseau ferré n'existait pas comme il existe. Les voitures, tout le monde n'avait pas de voiture.
Et puis,
il n'y avait pas d'Internet. On allait à la cabine téléphonique, d'ailleurs, téléphoner. Et donc, je ne revenais chez mes parents qu'aux vacances. Donc j'ai étudié, j'ai appris à jouer au baby-foot, au flipper. J'étais pas mauvais,
surtout ça.
Je suis rentré travailler chez mon père dès juillet 82.
Attends, 5 ans donc quand même, juste 5 ans. C'était bien la formation, c'était ce dépaysement, ce Jura.
Ouais, parce que j'étais dans une belle école à l'époque là. J'imagine que c'est toujours une très belle école. C'était une très grande école du bois. Et puis t'apprends la fraternité. Tu vis en groupe, tu vis en meute, donc tu apprends à vivre ensemble. Tu as des gens que tu n'aimes pas, ça n'a pas changé, j'en ai toujours que j'aime pas. Puis tu as des gens que tu aimes bien, donc tu apprends à vivre en collectivité. Et ça, c'est important pour la suite de la carrière. Parce que tu n'es pas seul, quoi. Tu n'es jamais seul quand tu es en collectivité.
Donc on voit bien que l'enjeu d'équipe dont tu parlais tout à l'heure aujourd'hui, à manager tout ça, ça vient de loin aussi dans vos métiers.
Ah ben oui, très loin.
Donc tu as le beau BTS en poche.
Je travaille chez mon père, je me blesse une main assez sérieusement parce que je suis gaucher et je me coupe plusieurs doigts sur la main gauche. Que je fais réparer. Donc aujourd'hui, c'est réparé comme ça peut. En tout cas, ça ne m'a jamais empêché d'avancer. Et il se trouve que je décide de faire acte de candidature dans le groupe Parizeau à Saint-Lô-sur-Semouse, qui était un des leaders du meuble bas de gamme, on dira. Mais en tout cas, un des leaders du meuble. Entrée de gamme, oui. Entrée de gamme, c'est mieux. Ouais. Ouais. Hein, donc, entrée de gamme.
Donc, c'est de la com, le gars.
Voilà, la com. En tout cas,
Julien Courbet. Non.
Je pars chez Parizeau et avec un beau BTS, je me retrouve à la tête d'une chaîne de fabrication où il n'y a que des Marocains. Des gens avec qui j'ai tout de suite sympathisé. J'ai 20 balais, ils ont des fois 20 ou 30 ans d'ancienneté. Et il faut s'imposer, mais intelligemment, quoi. Donc tu t'imposes en respectant les gens. Ça, j'ai fait, je pense, sans souci. Et à un moment, chez Parizeau, dans les 3 ou 4 mois après l'arrivée, on travaillait en 3-8 quand même. Hein. C'était quand même pas... c'était pas gênant. Moi, je trouvais que c'était bien. Moi, je dormais chez une dame qui était diabétique. Des fois, la nuit, elle toquait à ma porte, elle me disait du sucre. Voilà, donc, je dormais dans une chambre de bonne. Mais je trouvais que c'était une belle vue aussi. Et comment dire, il y a un concours chez Parizeau qui disent on recherche du monde pour partir en Arabie Saoudite pour installer des meubles pour les villas de la garde royale. Donc il y avait Riyad, il y avait Al-Khobar, il y avait Ofouf.
Donc là, c'était quand même pas de l'entrée de gamme, si je puis me permettre, quand même, normalement.
Non, t'as raison, c'était pas de l'entrée de gamme, oui, t'as raison. Il y avait beaucoup de meubles qui venaient du Danemark. C'était d'accord. Pas l'entrée de gamme, oui. Hein? J'ai rien dit d'autre. En tout cas, je pars chez Parizeau je pars en Arabie Saoudite.
C'est clair.
Je pars en Arabie Saoudite. Je me retrouve déjà avec un visa qui était périmé au moment de partir. Donc, je me retrouvais 2 jours à Paris sans valise parce qu'elle était déjà en Arabie. Mais j'arrive quand même en Arabie. On se retrouve toujours dans une villa avec 10 ou 12 Français où la cohabitation était facile, est devenue compliquée. Il y en a qui sont partis parce que ça n'a pas été facile jusqu'au bout. Mais en tout cas, je vis pendant un an en Arabie. Je me suis responsable d'un atelier de fabrication fabrication, de réparation de meubles, où je vis avec des musulmans, avec des philippins, avec des indonésiens, avec des pakistanais, des yéménites. J'ai jamais vu des manœuvres comme les yéménites. Moi, aujourd'hui, quand j'entends parler du Yémen, on parle de guerre. Moi, j'ai le souvenir de ces gens qui sont d'un courage exceptionnel, comme les pakistanais. Et donc, je fais plusieurs sites. Hein. Je me suis retrouvé un jour en dehors de ma voiture avec un fusil, pas sous la tête, hein, mais on me demandait mes papiers. En tout cas, j'ai vécu dans un pays sans inquiétude. Sans inquiétude de me faire casser la gueule. Bien sûr, ils avaient une religion, c'était l'islam. On respectait l'islam, on pratiquait pas, mais on respectait les temps de prière. On respectait leur temps de prière pendant le travail. Je l'ai appris vite, hein, ça. Leur dire, les gars, c'est la prière, vous allez pas faire la prière, vous continuez à bosser. Tu le fais une fois, la deuxième fois, t'as compris que ça se faisait plus. Parce que t'es chez eux. Voilà. Et puis après, le 1er octobre 84, je reviens, je crois, le 29 septembre 84, et le 1er octobre 84, je reviens travailler chez mon père. J'avais une proposition d'embauche par des Libanais, parce qu'il y a beaucoup de Libanais en Arabie Saoudite à l'époque-là, hein. Et je ne voulais pas rester, hein. J'avais donné un an de mon temps chez les Saoudiens, c'était bien. J'avais gagné un peu d'argent aussi, il ne faut pas l'oublier. Jamais oublier que quand on part comme ça en expatriation, on gagne aussi de l'argent. Et je me retrouve donc chez mon père le 1er octobre 84, et je me retrouve sur les chantiers. On était trois avec mon père et un monsieur. Et voilà. Et puis ma carrière commence chez Vibrac. J'ai toujours des clients que mon père avait, hein. Donc tu vois, ils ont vieilli, ils ont changé aussi. Et le 1er janvier 1990, je rachète officiellement l'entreprise à mes parents.
Donc ça, constitue la troisième date importante dans la vie.
C'est la troisième date importante, voilà. Et le 1er janvier 1990, je crée la menuiserie Vibrac SA, parce qu'à l'époque, là, on faisait des SA, maintenant on fait des SAS. Et voilà, et depuis le 1er octobre 1990, je préside la destinée de cette menuiserie.
Il y avait des frangines aussi, tu viens de glisser. Il y avait des sœurs, tu as des sœurs ?
J'ai deux sœurs, oui.
Ouais, ouais. Donc elles étaient aussi dans l'aventure familiale avant ?
Pas du tout, mais comme j'avais deux sœurs, il est logique que quand je rachète, je rachète aussi à mes sœurs.
Patrimoine familial, oui, voilà.
Et elles ne sont toujours pas dans la menuiserie.
Ouais. Bon, voilà, ça c'est pour boucler les trois dates importantes dans ta vie. C'est... la famille, mais c'est toujours une histoire de famille parce que c'est la reprise de l'entreprise quand même, voilà. Et puis c'est des pays. Bon. Les perspectives aujourd'hui, Alban, parce que tu as en même temps c'est de nombreux engagements à côté, et dans ces perspectives-là, on évoquait la CPME, cet engagement au sein d'un collectif interactivité, on va dire, qui permettait. Donc, c'est le syndicat des petites et moyennes entreprises. C'est aussi l'URSSAF. Alors, l'URSSAF, pourtant, pour un entrepreneur, c'est pas des amis, ça ?
Non, mais c'est pas des amis. Non, quand ils viennent te contrôler, c'est forcément pas des amis. Mais écoute.
En même temps, tu disais tout à l'heure.
J'ai expliqué pourquoi aussi. Ouais, parce que je pense qu'il faut démystifier. Je donne le nom Stéphane Dagas, parce que c'est quelqu'un avec qui on travaille beaucoup dans nos fédérations, dans nos organismes, qui est le directeur du site de Villers-et-Nancy, dirait l'URSSAF, la gendarmerie, la police, la DGFIP. Quand tu te fais arrêter, que tu as roulé trop vite, tu fais la gueule, hein, quand ils t'enlèvent ton permis. Mais en tout cas, peut-être que si jamais tu avais écrasé quelqu'un, tu ferais peut-être un peu moins la gueule. Enfin, tu ferais peut-être encore un peu plus la gueule. Donc, je veux dire qu'il faut démystifier, il faut expliquer à quoi sert la collecte de l'argent à l'URSSAF. L'URSSAF collecte des sommes extraordinaires, quoi. C'est l'URSSAF de Meurthe-et-Moselle, mais qui est redistribué, quoi. Qui sert quand même à faire fonctionner notre pays. Quand on a un feu rouge, quand on a une voie, quand on a une école, quand on a tout ça, l'argent collecté, l'argent de la sécurité sociale, l'argent des retraites, tout ça. Tout ça, comment on fait pour payer ça s'il n'y a pas un organe qui le récupère ? Et l'URSSAF fait ça. Elle veille aussi à ce que les entreprises, parce qu'on récupère des charges sur les salariés, quoi, veille aussi que les entreprises reversent ces charges quand même. Ouais. C'est facile, on en parlait tout à l'heure des mauvaises entreprises. Non, elle veille avec beaucoup d'assiduité à ça. Je suis à la commission de recours amiable, donc je vois forcément ce qui s'y passe. Et c'est intéressant.
C'est vrai que tu es un chef d'entreprise qui tape pas sur l'URSSAF, au contraire.
Ça m'arrive, bien sûr que ça m'arrive, mais je veux comprendre. Je suis comme tout le monde. Tant que j'ai pas compris, je peux pas dire oui.
Merci Alban, c'est déjà passé vite, hein, une demi-heure. Hein, mais
oui. Voilà.
Mais merci de ce panel d'émotions qu'on a partagé. Derrière l'émotion, c'est aussi toutes ces valeurs que tu nous as transmises. Merci pour ce moment, chouette moment passé ensemble, et belle année encore.
Merci Christophe, merci à Radio Karim Nancy quand même. Hein, et à bientôt.
Super Radio.